Ah, bonjour. Bonjour. On va reprendre ensemble 2 Corinthiens. La suite, on va lire 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18. 2 Corinthiens 4. Il est écrit : Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces moments, merci pour la grâce d'avoir ta parole et de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'écouter, la lire, l'étudier. Seigneur, bénis dans ta bonté encore, sois avec nous ce matin, accompagne cette prédication, conduis-la, domine-la, dirige-la. Et Seigneur, que tu nous fasses du bien, tu nous aides à regarder avec espérance vers toi. Merci parce que tu as vaincu, tu habites dans nos cœurs et tu veux aussi que nous soyons victorieux en toi. Nous te le demandons, bénis-nous à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à ce verset 7. Verset 7, on va le relire ensemble. Il est dit : Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et Dieu nous rappelle que nous sommes des vases de terre, des vases d'argile, puisque nous venons de la terre, des vases qui sont fragiles, mais à l'intérieur, il y a un trésor, il y a une puissance, une vie extraordinaire, c'est pas la nôtre, c'est pas de nous-mêmes, mais c'est parce que Dieu a mis en nous son esprit, Dieu nous a remplis de lui-même, et donc c'est sa présence, c'est sa manifestation, c'est son éclat qui fait qu'il y a un trésor qui est en nous. Mais comment ce trésor peut-il paraître ? C'est la question que soulève et en même temps à laquelle répond ce texte. Alors on se souvient que Paul avait des détracteurs à Corinthe, des personnes qui le calomniaient, qui essayaient de dire toutes sortes de choses mauvaises à son sujet. Et apparemment, son malheur, si on peut le dire ainsi, son malheur était une raison de le désavouer. Mais regardez Paul. Il est rejeté, il est dans la détresse, il est dans le dénuement, il est brisé, il est humilié. Où est la bénédiction de Dieu ? Ça fait penser un peu à ce que Jésus a vécu sur la croix de Golgotha. Lui aussi, il a vécu des heures sombres, des heures d'abandon. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il y avait du sarcasme, c'est une manière de dire, où est ton Dieu ? Ailleurs, dans un psaume, on lit, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Et si Jésus n'a pas été épargné de la souffrance, eh bien nous qui sommes ses enfants, il n'y a pas de raison qu'on en soit aussi épargné. Et l'épreuve n'est pas un signe d'abandon de Dieu. Au contraire, quand on est dans la difficulté, eh bien c'est là où Dieu est encore plus présent. Et c'est ce que Paul veut souligner dans l'exposition. Il fait l'exposition de sa souffrance. Regardez versets 8 et 9. Il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Et c'est certain que quand vous regardez ça, pressé, dans la détresse, persécuté, abattu, c'est un constat qui est déprimant. Qui peut résister à ce genre de choses? Qui peut relever la tête et surmonter ce genre de circonstances ou d'épreuves? Cependant, Paul est à Jésus-Christ. Et les coups qui sont donnés sur le vase de terre, loin de l'anéantir, au contraire, elle laisse paraître davantage du trésor qui est à l'intérieur de lui-même. Et malgré cette situation de détresse, d'abattement, Paul fait preuve comme d'un sursaut incroyable. Oui, nous sommes pressés de toute manière, c'est vrai, dans toutes les directions, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Autrement dit, c'est difficile, il y a une pression qui est forte, mais on n'est pas mort, hein ? On est toujours là. Oui, nous sommes dans la détresse, parce que nous sommes rejetés dans certaines villes, parce que parfois on est frappé, parce que c'est vrai, il y a le dénuement, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Paul et ses compagnons ne perdent pas espérance, ils restent debout, parce qu'ils ont une vision claire de Jésus-Christ. Il y a une autre traduction qui dit « dans la perplexité, mais non sans ressources ». C'est intéressant ça. C'est vrai que des fois, on vit des choses, on souffre, et on est dans la perplexité, et on se demande. Mais on n'est pas sans les ressources que Jésus-Christ donne, sans son secours. Oui, nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Et il serait logique d'avoir le sentiment de l'abandon quand on est persécuté. Avoir le sentiment, mais ça y est, je suis tout seul là, pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu ne protège pas ses enfants? En même temps, Jésus n'a-t-il pas connu l'abandon? C'est vrai qu'il a connu l'abandon. Mais il y a une différence entre Jésus et nous. C'est que lorsque Jésus était sur la croix, il a vraiment connu ce que c'était que d'être séparé du Père. Hein? Mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Il a crié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous, on a des promesses. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Aucune épreuve, aucune difficulté. Dieu est toujours là à nous aimer. Et cette promesse aussi, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quoi que ce soit qui nous arrive, jamais on n'est abandonné de Dieu. Non, jamais tout seul, dit le cantique. Hein. On ne sera jamais tout seul. Et puis Paul dit, oui, nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. C'est dans le sens de perdition. Hein. Nous vivons des découragements, mais nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu pour l'éternité. Et il faut garder la perspective du ciel devant nos yeux. Mais alors, d'où vient ce sursaut, cette capacité que Paul a de surmonter les pires épreuves? Comment il peut rester positif alors qu'il manque de tout? Comment il peut garder de l'espérance alors que nous, si nous vivions ces épreuves-là, cette somme d'épreuves, on serait anéantis probablement? La réponse, elle est écrite au verset 10, en portant avec lui, en lui, la mort de Jésus. Il dit, verset 10, abattu mais non perdu, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et Paul portait toujours avec lui la mort de Jésus, plus précisément, le terme veut dire la mise à mort de Jésus. Il portait constamment avec lui la mise à mort de Jésus. Donc, la croix de Jésus était une pensée constante, toujours dans son cœur. Il pensait à Jésus-Christ crucifié. Christ a souffert pour moi. Christ est mort pour moi. Christ m'invite à venir à la croix, là où il est, et à demeurer avec lui, à y mourir avec lui. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qui me suivent. Il ne dit pas qu'il se charge au début de sa vie chrétienne de sa croix et puis après il vivra sa vie. Non, qu'il se charge chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il faut de nouveau venir à la croix. Chaque jour, il faut de nouveau prendre sa croix. Il faut rester au pied de la croix. C'est être avec lui. C'est faire un avec lui. J'ai été crucifié avec Christ, dit Paul. Pourquoi ? Il dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et là, la vie de Jésus, elle ne se manifeste pas automatiquement, elle ne se manifeste pas systématiquement, obligatoirement. comme quelque chose qui arrive à chaque jour, à chaque heure. Mais la vie de Jésus a un prix. La vie de Jésus, pour qu'elle se manifeste, elle a un prix. C'est le prix de notre propre mort. C'est accepter soi-même de mourir. Et c'est bien parce qu'on porte en soi la mort de Jésus, acceptant de mourir à nous-mêmes, qu'alors eh bien, la vie de Jésus nous est donnée, qu'elle se manifeste. Et c'est quelque chose de surnaturel. Le naturel, ce sont les réactions humaines qui se manifestent selon notre caractère. L'épreuve, quand on vit une épreuve, ça peut être parfois comme une lessiveuse. Hein. On se sent tourneboulé dans tous les sens. Hein. Et on peut passer par plusieurs états. On peut passer par des plaintes. On se plaint, ou bien on s'apitoie, on se décourage. Parfois, c'est la rébellion. Pourquoi ? On serre les poings. Parfois, c'est les murmures. Murmures contre Dieu, ou bien murmures contre les circonstances qui nous paraissent injustes. Mais finalement, les circonstances, c'est Dieu. Puisque Dieu est souverain aussi sur les circonstances. Donc, murmurer contre les circonstances, c'est murmurer finalement contre Dieu. C'est pareil. Parfois, il y a un désir de jeter l'éponge, de lâcher la main du Seigneur. De toute façon, à quoi bon ? Parfois, on se laisse tomber dans le péché, puisque ça ne va pas, puisque rien n'avance, c'est toujours pareil, on se laisse tomber. Parfois, et c'est extrême, certains pensent même à sauter la vie. Mais toutes ces réactions, c'est des réactions naturelles, des réactions humaines, des réactions du vieil homme. Mais Paul nous montre autre chose ici. Il est éprouvé lui aussi, il faut se mettre un peu à sa place, il est durement éprouvé, de quoi vraiment jeter l'éponge, et il affiche un autre visage, une autre attitude. Au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, au lieu de se décourager, il va orienter sa vie différemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'épreuve le rapproche de Jésus. L'épreuve va le conduire jusqu'à la croix. Elle le pousse à mourir davantage à lui-même. L'épreuve le mène au renoncement, au désir de s'offrir encore plus au Seigneur et à vouloir demeurer davantage en lui. Ça, c'est ce que produit la souffrance et l'épreuve chez lui. Il porte la mort de Jésus avec lui. Et le résultat, là, c'est que la vie de Jésus elle se manifeste en lui. Et au lieu de regarder l'épreuve comme un coup du sort, comme une injustice, comme quelque chose de méchant qui était permis d'en haut, Paul le voit comme une occasion de voir la vie de Jésus se manifester encore plus chez lui. Regardez verset 11. Il dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Et voyez ici comment Paul retourne le fait de son épreuve et de ses souffrances en quelque chose de positif. Négatif, hein, Sylvie. Il le tourne et il le regarde d'une manière positive. C'est incroyable. Ce qu'il dit, c'est que finalement, s'il souffre à cause de Christ, c'est afin que la vie de Jésus soit manifestée en lui. Et là, on se dit, mais quelle perspective ! C'est incroyable. Est-ce que nous pouvons dire la même chose, avoir la même pensée ? Ça va dans le même sens que les paroles de l'apôtre Pierre dans son épître quand il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques 1, 2. Donc c'est vouloir regarder d'une manière positive son épreuve et quelle qu'elle soit. Et je dis « quelle qu'elle soit ». Pourquoi je dis « quelle qu'elle soit » ? Parce qu'on est prompt à dire « oui d'accord pour les autres mais pas pour mon cas ». C'est-à-dire on regarde l'épreuve de l'autre, on dit « ben, je comprends qu'il puisse et il devrait peut-être le regarder d'une manière positive. » Mais quand nous, on vit quelque chose, on a l'impression que nous, on est exclus. Ce n'est pas possible de le regarder d'une manière positive. Mais non, quelle que soit notre épreuve, toutes nos épreuves, les petites, les grandes, tout ce qu'on vit, mes souffrances quotidiennes et ce que je vis, je peux aussi le regarder d'une manière positive. Et Dieu veut que nous apprenions à regarder nos épreuves, toutes nos épreuves, comme une occasion d'aller crier vers lui, une occasion de nous rapprocher encore de sa personne. Parce que c'est certain, on ne pourra bien vivre nos épreuves et les traverser que si nous venons à lui. C'est le seul moyen. Et si Paul a cette réaction, ce sursaut, c'est parce qu'il vient à Jésus. C'est parce qu'il crie au Seigneur, c'est parce qu'il s'approche de lui. Et c'est comme ça qu'il faut voir nos souffrances, comme un moyen de nous rapprocher de lui, un moyen de mourir davantage à nous-mêmes, et non comme quelque chose de négatif, mais comme un bienfait finalement. Paul dit, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Et c'est à la gloire de Dieu finalement. Dieu permet une épreuve qui me rapproche de lui, et Dieu est glorifié par l'épreuve. Et c'est dans cette même pensée qu'un petit peu plus loin, dans son épître, Paul va parler de son handicap, parce qu'il avait un handicap, il avait quelque chose aux yeux, on ne sait pas trop exactement, il ne le dit pas de manière très claire, mais il semble voilà, que c'était les yeux, un problème de vue, peut-être quelque chose de purulent, quelque chose qui le faisait souffrir, et il était dans un tourment, il a lutté. Il le vivait très mal, il suppliait Dieu de le délivrer de son épreuve. Mais finalement, après quelques temps, Paul comprend que son épreuve est pour son bien. Et il voit que, en fait, dans sa maladie, il y avait quelque chose de bon, quelque chose de positif. Et que ce problème, au lieu d'être négatif, elle le rapprochait encore plus du Seigneur. Et il dépendait encore plus du Seigneur dans sa faiblesse. Alors, quand Paul comprend ça, il finit par dire, 2 Corinthiens 12, 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et comme lui, nous sommes dans un chemin, et pour comprendre que nos épreuves, nos souffrances, nos faiblesses, nos détresses ne sont pas destinées à nous faire du mal, il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire au travers de toutes ces souffrances. Il est en train de faire quelque chose de bon pour nous amener à compter davantage sur lui, à nous rapprocher de lui. Et si on veut traverser victorieusement nos épreuves, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. C'est venir à Jésus, c'est lui en parler, c'est lui exprimer tout ce qu'il y a dans notre cœur, notre amertume, notre colère, notre découragement, nos plaintes, nos gémissements. C'est crier à lui, c'est vider notre cœur. Parce que c'est lui qui peut venir consoler, c'est lui qui peut venir bien relever notre âme, c'est lui qui peut venir nous aider à la voir avec une autre perspective. Regarder nos souffrances avec une autre manière de voir. Et la vie de Jésus, à ce moment-là, elle peut se manifester. Et même plus que cela, regardez verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Un petit verset ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est que Paul, dans cette vie qui était livrée, sacrifiée, servant même en quelque sorte de libation par ses souffrances, par ses persécutions, elle produisait du fruit. Lui, eh bien, il vivait tout cela, il était mort, hein. La mort agit en nous, mais le fruit, eh bien, c'était les Corinthiens eux-mêmes. C'est que les Corinthiens étaient venus à la vie, étaient venus au salut, les Corinthiens étaient nourris par l'exemple de Paul, par ses écrits, par tout ce qu'il vivait. Et donc il y avait du fruit, il y avait un bon fruit qui sortait de tout cela. Et il ne faut pas minimiser ce qu'est ou ce que peut être une vie qui est vraiment offerte à Jésus-Christ. Il n'y a pas de souffrance ou d'épreuve qui ne soit difficile. D'ailleurs, on ne les appellerait pas épreuve ou souffrance si ce n'était pas difficile. C'est difficile. Mais si on vit avec cette attitude-là, avec ce renoncement, avec ce désir de porter en nous la mort de Jésus, et donc, étant mort à nous-mêmes, il y aura du fruit, nous dit Dieu. Il va y avoir du fruit. Il y a forcément du fruit. Jean 12, 24. Si vous voulez prendre ou le lire derrière moi, Jean 12, 24. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et notre vie ne peut que porter du fruit si elle est ce grain de blé, ce grain de blé qui meurt. Nécessairement, ça va germer et ça va porter du fruit. Et ce fruit, eh bien, c'est peut-être chez notre conjoint, ce fruit, c'est peut-être dans notre famille, c'est peut-être auprès de nos enfants, c'est peut-être auprès de nos parents, auprès de nos collègues, auprès de nos connaissances, mais il va y avoir du fruit. Si je meurs, il y a du fruit. Il y a quelque chose qui se passe. La puissance, la vie et le fruit ne viennent que dans la faiblesse et la mort. Il faut la faiblesse et la mort. Alors il y a du fruit qui vient. Pour Paul, il avait choisi de vivre pour Jésus, quelles qu'en soient les conséquences. Et même si la prédication de l'Évangile, elle lui apportait beaucoup de soucis, beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes, il en voyait aussi tous les bienfaits qui en résultaient. Regardez versets 13 à 14. Il dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc c'était son ministère, c'était sa vocation. Il était apôtre, il était évangéliste, il était pasteur, il était docteur. Il avait un ministère qui était large, complet. Il posait les fondements de l'Église de Jésus-Christ et il ne pouvait pas faire autrement que de prêcher le message de Jésus-Christ. C'était obligatoire, il le fallait, il le faisait de tout son cœur, même s'il s'attirait des persécutions, même si on le rejetait encore plus, hein, plus il parlait et plus on le rejetait, Paul avait foi. Il avait foi qu'il ressusciterait, et il avait foi aussi que ses frères, qu'il avait amenés au salut, allaient ressusciter avec lui. Et ça, ben, c'était une récompense, quoi, de porter du fruit, de voir ce fruit, de voir que ils allaient tous ressusciter ensemble, mais quel fruit, quelle récompense pour lui. Alors oui, il y a des souffrances, oui, c'est vrai, il y a des tranches de vie, des moments qui sont difficiles sur cette terre, mais il y a des fruits, il y a du bon fruit pour celui qui offre sa vie à Jésus. Et en vrai, en vivant vraiment pour le Seigneur, il y a toujours des fruits. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Paul pour qu'il y ait des fruits. Là, on décrit sa vie, on se dit, oui, mais c'est Paul. Mais il n'y a pas besoin de s'appeler Paul. Regardez par exemple un chrétien comme Épaphrodite dans l'Épître aux Philippiens. C'était un simple frère. Il était malade. Il avait rendu de nombreux services aux apôtres, à l'Église et à l'apôtre Paul. Il n'a pas gagné forcément des centaines d'âmes. Rien du tout, peut-être. Hein, mais il était fidèle. Fidèle en traversant sa maladie, fidèle en aimant le Seigneur dans sa maladie et en recevant de Jésus la force. Et Jésus relève son nom dans l'Épître aux Philippiens. On peut dire que, voilà, Épaphrodite, il est porteur de vie, porteur de fruits, et il nous encourage quand on le lit. Regardez un homme comme Apelles. Qu'est-ce qu'on sait d'Apelles? On ne sait rien du tout, pratiquement rien. Il y a juste une petite phrase dans l'Épître aux Romains, « Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. » C'est tout. Mais le sens de la phrase veut dire aussi que c'était un homme qui avait fait ses preuves. D'ailleurs, Darby dit « Saluez Apelles, approuvé en Christ. » Il a fait ses preuves dans l'épreuve. Il a été approuvé dans le feu des épreuves. Et nous aussi, dans nos épreuves, nous faisons nos preuves. Et nous pouvons être approuvés. Et nous rendons témoignage par notre vie. Dans tout ce que nous vivons, et qu'on le veuille, ou de toute façon qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on rend témoignage par notre vie. Et peut-être qu'on se souviendra de nous comme quelqu'un qui a traversé victorieusement ces épreuves. Il y a un fruit. Notre vie est porteuse de fruits. Ou bien regardez une Tabitha, appelée aussi Dorcas, une femme, disciple de Jésus, servante du Seigneur, qui fait des tuniques. Peut-être qu'elle faisait des tuniques pour les donner aux nécessiteux, peut-être qu'elle vendait les tuniques et puis elle donnait le produit pour l'œuvre de Dieu, peut-être les deux à la fois, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'elle avait une réputation. Il est écrit d'elle qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ce n'était pas forcément une gagneuse d'âme, mais il y avait un fruit. Sa vie, elle exhalait le parfum, le doux parfum de Jésus. Tous avaient probablement leurs propres épreuves, leurs propres difficultés, leurs souffrances, mais ils portaient avec eux la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans leur corps. Verset 15, Paul dit « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Tout cela arrive à cause de vous, ou pour vous, on pourrait le traduire aussi. Pourquoi ? Pour que la grâce se multiplie dans ma vie, dit Paul, dans votre vie. Mes épreuves eh bien, font que la grâce se multiplie pour moi, mais ça se multiplie aussi pour vous et ça ne cesse de se multiplier parce que la grâce produit du fruit dans la souffrance, dans la mort. Elle produit le salut, elle produit des âmes nourries, une consécration. Et finalement, tout cela est à la gloire de Dieu et puis ça suscite encore des actions de grâce. Voilà, la grâce se multiplie et c'est bon. Alors, eh bien, verset 16 à 17. C'est pourquoi, à cause de tout cela, à cause du bon fruit, à cause des actions de grâce, à cause du fait que Dieu est glorifié, à cause du salut des âmes, Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Paul avait déjà dit au début du chapitre, nous ne perdons pas courage. Et il le répète ici. À cause du bon fruit, il ne perd pas courage. Et même si c'est au dépend de sa santé, de sa force physique, de ses forces, de son sommeil, il ne perd pas courage. Puisqu'il ajoute, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et là, il y a un fait qui est indéniable, contre lequel on ne peut pas lutter, c'est que notre corps se détruit. On vit une lente dégradation. Jusqu'à 40 ans, j'ai jamais eu cette pensée. Et puis petit à petit, on a l'impression qu'on amorce une légère descente. Hein. Notre corps s'use, la jeunesse n'est pas éternelle, elle est éphémère. Et donc le corps se fragilise, les maux apparaissent, les signes du vieillissement arrivent de petit à petit, même s'ils sont différents pour les hommes que pour les femmes, mais ça apparaît et c'est inéluctable. Mais dans un siècle où l'entretien du corps devient très important, l'alimentation doit être saine. La redécouverte du sport par le biais des salles de fitness, je suis toujours impressionné de voir les parkings plein à craquer, c'est vrai. Dieu veut aussi et surtout qu'on prenne soin de son être intérieur. Qu'on fasse très attention à sa santé intérieure. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dit le Seigneur. Et la fatigue devait peser sur la vie de Paul, lui qui parcourait des centaines et des centaines de kilomètres à pied ou par mer. Regardez 2 Corinthiens 6, 4 à 5. 2 Corinthiens 6, 4 à 5. Il dit... Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Et on voit que son corps subissait des coups, hein, pour le frapper, mais aussi des privations, un manque de sommeil, des emprisonnements dans des cachots, certainement avec des fers aux pieds, des travaux aussi, ou des peines à cause d'efforts qu'il devait soutenir. Et si on fait ce que Dieu veut, alors ça ne va pas être un chemin de rose avec 12 heures de sommeil, avec une alimentation parfaitement équilibrée, et puis plus d'épreuves, plus de maladies, plus de soucis. Dieu, au contraire, ne nous réserve pas une vie comme cela, mais on a aussi des épreuves, on a aussi des souffrances, des difficultés. On a des choses qui affectent notre corps. Mais si on vit dans l'intimité, si on vit dans la communion avec Christ, alors il se produit un miracle. C'est que l'homme intérieur est renouvelé. Notre homme intérieur est transformé. De jour en jour, dit-il. Et Paul nous rappelle l'importance de cet homme intérieur, de cette nouvelle nature que Dieu a mise en nous. Si nous allons bien avec Jésus-Christ, alors nous puisons la force de traverser nos difficultés. Pour Paul, son corps s'usait, mais Christ croissait en lui, ne cessait pas de briller davantage, si bien que même ses mots, il les regarde comme minimes au regard de la gloire. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et là, il fait un contraste, il souligne, et il faut regarder ce contraste. On vient de décrire ses mots, tous ses mots, ses luttes, ses persécutions. Mais lui, il en parle. Il parle de lui-même et de ses mots comme de légères afflictions du moment présent. Légères. Light. C'est incroyable. Comment peut-il dire que ces épreuves étaient légères? Mais il veut souligner dans notre esprit que nos souffrances endurées dans la fidélité avec Jésus, elles ne peuvent pas être comparées, c'est impossible, incomparable avec la gloire qui nous est réservée. Et mieux, il dit, les légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et c'est une grâce pour chaque enfant de Dieu. Quand on n'est pas enfant de Dieu, on se dit, mais pourquoi je souffre? À quoi ça sert? On ne comprend pas. Mais c'est une grâce d'être enfant de Dieu et de le connaître. Dieu ne nous épargne pas les épreuves, mais il promet que ces épreuves, si nous les vivons dans la fidélité, dans la consécration, dans un désir de nous rapprocher davantage de lui, en nous appuyant sur lui, alors elles produisent de la gloire. Et ça veut dire, elles ont pour conséquence de la gloire. Et il dit au-delà de toute mesure. Donc on ne peut pas le mesurer. Paul pèse ses afflictions, il dit elles sont légères. Mais il dit la gloire, c'est pas mesurable. Ça. C'est pas mesurable. Quand on lit cela, quel encouragement c'est pour nous qui pouvons vivre des épreuves. De se dire, mais ce que je vis n'est pas comparable à ce que Jésus me réserve. Souffrance légère, poids incalculable de gloire. Mais pour endurer ces souffrances, non avec des plaintes, avec des murmures, avec des gémissements, avec de la colère, de la rébellion, de l'infidélité ou du découragement, il faut suivre l'exemple de l'apôtre. Il dit, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, alors que les choses invisibles sont éternelles. Et si on regarde notre vie sur terre comme une finalité, comme un aboutissement, ou bien comme un accomplissement essentiel pour notre bonheur, alors on risque d'être déçu. Oui, on va être déçu. Nous ne sommes pas du monde, comme Christ n'est pas du monde, il l'a dit. Et Dieu ne veut pas qu'on s'attache à cette vie parce qu'elle est passagère, elle est éphémère. Et la force, écoutez ceci, la force d'une vie chrétienne joyeuse et positive, elle se puise dans le fait de garder les yeux fixés sur les choses invisibles, les choses éternelles. C'est là où on puise bien la vie joyeuse, la vie positive. En fait, il faut s'entretenir. Il faut qu'on s'entretienne des choses du ciel, de la gloire de Dieu, du retour de Jésus, de l'enlèvement. Il faut s'entretenir de ces choses. Garder toujours dans notre esprit cette perspective, c'est essentiel. C'est ce qui permet de minimiser nos souffrances et nos peines de cette terre. Voilà, la perspective du ciel libère et encourage. Alors j'aimerais terminer juste en vous posant quelques questions. Est-ce que Jésus, là en ce moment, et je suis comme vous, hein, on passe par des phases où on est proche de Jésus et où on s'éloigne et on revient, est-ce que Jésus est au centre de votre vie? Est-ce qu'il est au centre de notre préoccupation? Est-ce qu'il est l'objet de toute notre attention, de nos regards, de notre adoration? Est-ce que nos yeux sont fixés vers les choses invisibles, les choses éternelles, pas simplement le dimanche matin, mais toute la semaine? On s'entretient des choses éternelles. Est-ce qu'on porte en nous la mort de Jésus? Tout à l'heure, on va prendre la scène. De quoi? Eh bien, se souvenir de nouveau du sacrifice de notre Seigneur. Mais est-ce qu'on porte en nous la mort de Jésus? Est-ce que nous sommes au pied de sa croix? Est-ce que nous sommes un grain de blé qui meurt tous les jours? Chaque jour, dit le Seigneur. Porter sa croix chaque jour. La puissance, la vie et le fruit ne viennent que dans la faiblesse et la mort. Et c'est une des raisons principales de nos maux, de nos souffrances. Il y a un gain derrière la souffrance et l'épreuve. Qu'on puisse le voir ensemble. On va prier maintenant. On va rendre grâce au Seigneur. Et cette semaine, un frère me disait une petite parole et je me dis, oh, comme c'est bon et comme c'est vrai ça. C'était au sujet des 10 lépreux. Un seul est revenu pour lui rendre grâce. Et voilà, qu'on puisse lui rendre grâce ensemble de tout notre cœur ce matin.